Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, nous ouvrons, en essayant d'être aussi ponctuel que possible, cette nouvelle séance. Donc, l'idée de cette séance était d'entendre des gens travaillant à l'université et proposant des réflexions, des élaborations théoriques qui peuvent présenter un service pour la société. Donc l'idée des réflexions qui peuvent permettre à la société d'avancer dans la réflexion de solutions pratiques à des problèmes qui se posent aujourd'hui de manière pratique. Et dans cette perspective, à ma gauche, Simone Sirbuchen, professeur ordinaire de philosophie moderne et contemporaine. À ma droite, Michel Bourban, qui est assistant doctorant, assistant doctorant sous la responsabilité de Madame Sirbuchen, ont proposé un atelier autour du thème de la justice globale. Ils vont donc présenter chacun un volet de cette réflexion autour de la question de la justice globale. Pour Madame Sirbuchen, ce sera sur la question de la justice migratoire. Et pour Michel Bourban, ce sera sur la question de la justice climatique. Donc deux questions qui se posent pratiquement à des échelons internationaux aujourd'hui et pour lesquelles des apports théoriques peuvent s'avérer, au fond, nécessaires, utiles à l'élaboration de solutions permettant, d'améliorer la situation. Donc, je ne vais pas présenter beaucoup plus longuement mes deux orateurs. Donc, Madame Simone Sirbuchen a été nommée professeure de philosophie ordinaire, ordinaire en philosophie moderne et contemporaine. Il y a maintenant, c'était la première année hein, que vous terminez votre première année.
J'ai fait une année à Lausanne.
Oui, donc elle est entrée en fonction l'année passée. Elle va entamer sa deuxième année comme professeur ordinaire au sein de la section de philosophie. Et Michel Bourban, lui, a fait un parcours d'études à l'université de Lausanne. Ensuite de quoi il est allé à Paris, Paris 4, hein, si je ne me trompe pas, où il a fait une maîtrise dans le département dirigé par Alain Renaud, sans oublier un séjour d'un semestre, c'est juste, ou d'un semestre aux États-Unis, où il a pu parfaire à la fois sa maîtrise de l'anglais, je suppose, et sa connaissance des dossiers. Voilà, alors, je vais proposer que la séance se déroule de la manière suivante. Donc, Madame Sirbuchen va présenter ses réflexions sur la justice migratoire. De nouveau, on a demandé expressément une certaine concision. Donc, il s'agit en tout cas de ne pas dépasser un quart d'heure, idéalement plutôt 12-13 minutes. Je vais de nouveau me faire le gardien du temps. Et ensuite, Michel Bourban enchaînera avec une présentation d'une dimension comparable sur le thème de la justice climatique. Et ensuite, nous commencerons la discussion. C'est un peu, parce que c'est mon unique occasion de parler, ou presque, je vous permettrai de poser une question. Et puis ensuite, ce sera à vous de vous exprimer. Moi, vous savez, j'en ai marre de me taire, donc il faut de temps en temps que je puisse parler, sinon ça ne va plus. Mais là, je me tais et je donne la parole à Simone.
Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs de ces journées de débat de l'opportunité de présenter un élément de philosophie universitaire. Je commence mes réflexions sur la migration par deux remarques d'ordre général au sujet de la justice globale. Dans les pays anglophones et germanophones, la justice globale constitue un sujet important de débat et de recherche depuis une vingtaine d'années. La philosophie française était longtemps absente de ces débats. Ainsi, lorsque j'ai commencé à enseigner un cours sur la justice globale à l'Université de Fribourg, il y a quelques années, il était encore difficile de trouver de la littérature française à ce sujet. Néanmoins, les choses ont changé et le Centre international de philosophie politique appliquée, dirigé par Alain Renaud à l'Université de Paris-Sorbonne, constitue aujourd'hui un centre de compétences dans ce domaine. Personnellement, je trouve particulièrement intéressant de suivre comment les débats ont évolué en France. Deuxième remarque, au départ, les théories de la justice globale se sont focalisées sur la justice sociale, à savoir le problème de la pauvreté mondiale et la distribution inégale des revenus et de la richesse à l'échelle mondiale. La question clé à laquelle ces théories ont essayé de répondre était la suivante. Les pays développés et riches sont-ils obligés, pour des raisons de justice, de partager leurs richesses avec les personnes pauvres d'autres pays? Dans les débats autour de cette question, deux positions de base ont été développées. La première position défend une conception égalitariste de la justice globale, selon laquelle tout individu au monde doit avoir une chance égale à développer ses capacités personnelles et réaliser son projet de vie. Afin de garantir que l'égalité des chances soit réelle, une redistribution de la richesse au profit des couches les plus pauvres de la société mondiale est demandée. La seconde position défend une conception non égalitariste ou suffisantiste de la justice globale, selon laquelle la justice au niveau mondial se définit en termes de seuil. Au lieu de se baser sur l'idée très exigeante de l'égalité des chances, cette position demande que tout individu au monde soit en mesure d'atteindre un certain seuil, à savoir mener une vie décente. Pour concrétiser l'idée de vie décente, on se réfère en général à l'idée de droits humains fondamentaux tels que le droit à un standard de vie adéquat. Même si la seconde conception de la justice globale est moins exigeante que la première, elle constitue néanmoins une base solide pour défendre l'idée que les pays nantis sont obligés, pour des raisons de justice, d'aider les personnes démunies de ce monde à sortir de la pauvreté. Je viens à la migration. Nous savons tous et toutes et tous que la politique de migration des pays riches est restrictive avant tout par rapport aux migrants dits économiques, c'est-à-dire aux personnes qui se déplacent pour échapper au fardeau insoutenable qui les accable dans leur pays d'origine, dans l'espoir d'avoir accès à de meilleures opportunités pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Il se pose alors la question de savoir si des pays nantis tels que la Suisse sont obligés, pour des raisons de justice, d'ouvrir leurs frontières aux migrants économiques provenant de pays pauvres. Pour animer un débat à ce sujet, je vais poser un argument susceptible de défendre l'ouverture des frontières et ensuite considérer trois objections contre cet argument de base. Et voici l'argument de base. Pour un grand nombre de personnes démunies, la chance de pouvoir s'immigrer dans un pays riche tel que la Suisse est la seule possibilité de sortir de la misère dans leur pays d'origine. Si les pays nantis sont obligés d'aider les personnes démunies à mener une vie décente, ils sont obligés d'ouvrir leurs frontières aux migrants économiques des pays pauvres. Je viens à la première objection. Une politique d'ouverture des frontières est un moyen inefficace pour remédier au problème de la pauvreté mondiale. Le nombre de migrants que les pays nantis peuvent recevoir étant limité, ceux-ci devront plutôt augmenter l'aide au développement. Je vois deux manières de comment on peut répliquer à cette objection. Premièrement, les changements que l'on espère obtenir par l'aide au développement ne vont se réaliser que sur le long terme. Les problèmes de la migration se posent ici et maintenant et il faut chercher des solutions dans l'immédiat. Deuxième réplique, les personnes qui bénéficieront d'une politique d'ouverture des frontières ne sont pas les seules à pouvoir améliorer leur situation de vie et à dépasser le seuil de la pauvreté. Les envois de fonds, c'est-à-dire la part de revenus gagnés à l'étranger que les migrants rapatrient chez eux, sont considérables. En 2012, et les chiffres ne sont pas garantis, en 2012, ces fonds sont évalués à 400 milliards de dollars, ce qui en fait la deuxième source de financement des pays en développement à l'échelle mondiale, derrière les investissements directs à l'étranger. L'aide publique au développement accordée par les pays riches aux pays en développement ne représente que la moitié des sommes transférées par les migrants. Deuxième objection contre l'argument de base. Les migrants qui sauront profiter de l'ouverture des frontières des pays nantis ne sont pas des plus pauvres parce que ceux-ci ne disposeront pas des fonds nécessaires à obtenir passeport et visa et à financer le voyage. On risque de promouvoir la fuite des cerveaux, c'est-à-dire un courant migratoire de personnes hautement qualifiées du sud au nord au profit des seuls pays du nord. Et à nouveau deux répliques. Premièrement, il serait problématique de vouloir enfermer des personnes dans leur propre pays en raison du bénéfice qu'elles lui apportent. Deuxième réplique, il s'agit d'un problème réel auquel on pourrait remédier en défendant le recrutement agressif de personnes qualifiées dans les pays défavorisés et à l'aide d'une compensation de la communauté d'origine pour une partie des avantages qui étaient conférés aux émigrés. Je viens à une troisième objection et je n'aurai plus de réplique. Une politique d'ouverture des frontières ne peut être réalisée en raison de l'opposition manifeste d'une grande partie des citoyennes et des citoyens des pays nantis. Ceux-ci insistent, pour de bonnes raisons, sur leur droit à l'autodétermination politique et sur le privilège de contrôler les frontières de leur territoire. Il est à eux de décider des critères d'immigration pour autant qu'ils n'appliquent pas de critères discriminatoires tels que des critères de race, de sexe ou d'âge. Comment peut-on répondre à cette objection? Je crois qu'il faut chercher des réponses à deux niveaux. D'abord, au niveau théorique, il se pose la question quelle place faut-il accorder à la décision démocratique dans la théorie politique? Et deuxième question qu'il faut se poser d'ordre plus pratique, comment agir en tant qu'homme ou femme politique? Essayer de convaincre ses concitoyennes, concitoyens de la mise en œuvre d'une politique d'ouverture des frontières.
Parfait. En termes de timing, impressionnant. Michel, c'est à toi.
Merci Luc Pelletier. Merci également aux organisateurs de cette journée pour avoir accepté notre proposition et surtout merci à vous d'être présents, de venir nous écouter. Alors je voudrais dire quelques mots brièvement sur la justice climatique globale, très brièvement introduire à ce thème. Déjà pour proposer le cadre de manière générale, la justice globale s'intéresse, comme Simone Sorbonne l'a relevé, avant tout à la question de la pauvreté mondiale. Le but premier des auteurs qui participent à cette tradition, c'est de réduire les inégalités globales entre riches et pauvres. Étant donné que la question de la pauvreté mondiale est une question très générale, elle se décline en plusieurs sous-questions. Étant donné que la pauvreté est multidimensionnelle, il faut l'aborder à partir de différents sous-secteurs, à partir de différentes disciplines. Et la justice environnementale représente une de ces disciplines. Elle essaye d'assurer un accès beaucoup plus équitable aux ressources naturelles pour les personnes les plus défavorisées. dans la justice environnementale, une sous-discipline qui a commencé à émerger depuis environ une quinzaine d'années. Et justement, la discipline qui va intéresser aujourd'hui, c'est la justice climatique. Alors, la justice climatique part du constat du réchauffement climatique et se demande quelles sont les conséquences de ce phénomène du point de vue de la justice globale, d'un côté, du point de vue de la justice intergénérationnelle, de l'autre. En d'autres termes, les deux questions principales de ce champ de recherche sont, premièrement, quels sont les devoirs de justice globale que les principaux individus et pays émetteurs ont envers les victimes présentes du changement climatique. Et la deuxième question est quels sont les devoirs que les générations présentes ont envers les futures victimes du changement climatique. Alors je vais me focaliser sur la première question. Je vais procéder de manière académique en trois temps. Premièrement, je vais présenter certains éléments de science climatique, les éléments les plus fondamentaux. Deuxièmement, je vais essayer de montrer en quoi le changement climatique est un problème de philosophie politique, de justice globale, en d'autres termes. Troisièmement, je vais faire en conclusion quelques remarques sur le champ, sur l'état du champ de recherche actuellement de la justice climatique. Alors, pour commencer, que l'on soit économiste, politicien, sociologue, philosophe ou simplement citoyen intéressé au problème du changement climatique, nous avons la chance de disposer du travail précieux d'un des groupes scientifiques les plus puissants qui n'ait jamais été, à savoir le GIEC, G-I-E-C, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a été créé par l'ONU en 1998 et il vise à rassembler tous les 5 à 6 ans dans un rapport les connaissances rigoureuses dont nous disposons sur le changement climatique. Alors les trois éléments principaux et consensuels sur le changement climatique qui sont reflétés par les rapports du GIEC, le dernier ayant eu lieu en 2007 et le nouveau qui va sortir d'ici quelques mois, est que premièrement les températures globales sont en augmentation et augmentent toujours plus rapidement. Deuxièmement, ce réchauffement est causé par les émissions anthropiques, c'est-à-dire causées par l'homme, de gaz à effet de serre. Et troisièmement, les conséquences de ce réchauffement sont majoritairement négatives pour l'homme, où qu'il habite, mais avant tout dans les pays les plus pauvres. Alors depuis 1880, les températures globales ont augmenté d'un degré Celsius. Alors a priori, un degré de réchauffement global semble peu de chose, mais d'emblée, plusieurs précisions sont nécessaires. Donc premièrement, il s'agit là d'une moyenne globale. Dans beaucoup d'endroits sur le globe, le réchauffement est plus élevé qu'un degré Celsius, mais la moyenne est de 1 degré, étant donné que dans d'autres secteurs, le réchauffement était moins prononcé. Cela veut dire que le réchauffement est distribué de manière inégalitaire sur le globe, à même titre que les conséquences de ce réchauffement, comme nous le verrons tout à l'heure. La deuxième précision est que 1 degré semble peu de choses, mais il n'en reste pas moins que cela fait depuis plus de 2000 ans que la planète n'a pas subi des températures aussi élevées, et que si on regarde l'augmentation du niveau des températures ces 25 dernières années, l'augmentation était beaucoup plus rapide que les derniers réchauffements qui ont eu lieu les derniers 10 000 ans de l'histoire de notre planète. Et enfin, troisième précision, les impacts de ce réchauffement d'un degré sont déjà observables aujourd'hui dans de nombreuses régions du globe. Par exemple, les Maldives et également le Bangladesh pour l'augmentation du niveau des eaux, qui est une conséquence de ce réchauffement global. Les côtes des Amériques pour ce qui est de l'augmentation de la fréquence des tornades et également des plutôt pas vraiment des tornades mais plutôt des tempêtes et des ouragans, et enfin la Bolivie pour la fonte toujours plus rapide des glaciers, ainsi que le Groenland pour la fonte toujours plus glaciaire des calottes glaciaires. Donc quelle est la cause de ce phénomène? Ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui proviennent des activités humaines. Alors la consommation d'énergie représente vraiment la cause numéro un de ce phénomène. Dès qu'on pratique d'innombrables activités quotidiennes, par exemple brancher un ordinateur, allumer la télévision, cuisiner, etc., nous émettons des gaz à effet de serre. À part l'énergie, il y a également deux autres causes importantes qui sont la déforestation et l'agriculture, dont nous bénéficions également de multiples manières, augmentant ainsi notre contribution au problème. Alors les gaz à effet de serre portent très bien leur nom. Ce sont des gaz qui, une fois qu'ils sont émis dans l'atmosphère, laissent passer les radiations solaires qui proviennent de l'espace et capturent les radiations terrestres qui essaient de repartir dans l'espace. Donc ça fonctionne vraiment comme une serre. Donc le problème n'est pas le phénomène lui-même de l'effet de serre, étant donné que sans cette couche, il n'y aurait pas eu possibilité qu'une vie se développe sur Terre, ou du moins pas une vie telle que nous la connaissons. Le problème vient de l'augmentation récente et massive d'émissions de gaz à effet de serre à partir des activités humaines. Autrement dit, le problème fondamental est que nous sommes en train d'endommager notre support de vie et celui des autres formes de vie sur Terre, le climat. Alors, tous ces éléments sont consensuels parmi les climatologues, et les seuls qui en discutent encore ne sont pas climatologues et sont le plus souvent financés par industriels qui ont lancé une grande campagne de désinformation au sujet du changement climatique, notamment aux États-Unis. Une campagne qui est comparable à celle qui a eu lieu contre le tabac il y a quelques décennies. Ce qui est important de préciser, c'est que ces données-là, celles dont je viens de parler, sont consensuelles, mais il existe encore beaucoup d'incertitudes dans les sciences du climat, notamment en termes de prédictions futures. Même si on sait que les choses vont s'aggraver, on ne sait pas jusqu'à quel point. Et c'est pour ça que le GIEC a développé plusieurs scénarios possibles d'effets sur le climat dans les années à venir. Alors, en quoi ce problème, deuxième élément, en quoi ce problème est préoccupant pour les éthiciens et pour les philosophes politiques? Alors, une des notions qui a gagné une grande importance ces dernières décennies dans la littérature, en philosophie politique et en éthique, c'est la notion de justice. Donc, une question importante à se poser en tant que philosophe qui commence à aborder le problème du changement climatique est en quoi le changement climatique représente une injustice à l'échelle mondiale. Alors, il existe deux grandes conditions pour qu'un problème soit un problème de justice. La première condition est que le problème doit être causé par l'homme et qu'il ait des conséquences néfastes sur l'homme. Donc sans son caractère anthropique, le changement climatique ne serait pas un problème de justice. Par exemple, si on prend le cas d'un tsunami, parfois les conséquences humaines sont désastreuses, mais il n'en reste pas moins que les causes sont naturelles. Pour cette raison, ce n'est pas un problème de justice. Nous avons certes des devoirs de charité, de venir en aide envers les personnes qui sont touchées par un tsunami. Mais c'est là justement un devoir de charité, non de justice, qui est dicté par notre compassion. Dans le cas du changement climatique, c'est différent. Nous avons des devoirs de justice de venir en aide aux victimes du changement climatique en vertu du fait que nous en sommes responsables. La deuxième condition pour qu'un problème puisse être un problème de justice, c'est qu'il crée de graves inégalités. Et ici, c'est également le cas dans le cas du changement climatique. Si le changement climatique est injuste, c'est avant tout parce qu'il est inéquitable. Donc la notion d'équité, au moins depuis Aristote, revient à dire qu'il faut donner ou rendre à chacun ce qui lui revient de droit. Donc le changement climatique est injuste parce qu'il distribue de manière radicalement inégalitaire, c'est-à-dire équitable, les avantages et désavantages liés aux émissions de gaz à effet de serre. Donc je développe brièvement ce point avant de conclure. Alors que faut-il entendre par les bénéfices et coûts liés aux gaz à effet de serre ou à ces émissions de gaz à effet de serre? Les bénéfices correspondent à tous les avantages qui sont rendus possibles par l'utilisation des combustibles fossiles, notamment une énergie bon marché et en abondance, des systèmes de production agricole à bon marché efficaces, des systèmes de transport performants, ainsi de suite. Et la majeure partie de ces bénéfices est concentrée entre les mains des pays et des personnes les plus riches, étant donné que ce sont eux qui émettent le plus. Par exemple, en 2004, tandis que les pays les plus riches n'abritaient que 15% de la population mondiale, ils produisaient 45% des émissions globales, tandis que les populations les plus pauvres, qui représentaient quant à eux 37% de la population mondiale, n'étaient responsables que pour 7% des émissions, ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'un riche émet en moyenne 15 fois plus qu'un pauvre. Et en tout, le 20% de la population mondiale, qui est constituée des individus les plus riches, des pays les plus riches, est responsable pour plus de 60% des émissions globales. Pour venir au coût des émissions de gaz à effet de serre, ils correspondent à tous les effets néfastes du réchauffement global, qui sont nombreux, mais on peut citer certains risques très spécifiques pour l'homme. Premièrement, et ça rejoint le thème de la conférence de Simone Sorbonne, des migrations forcées de population, notamment dans les Maldives et au Bangladesh, lorsque les terres commencent à être inondées. Deuxièmement, l'augmentation de la malnutrition. Troisièmement, l'augmentation des décès, maladies et blessures causées par les événements climatiques extrêmes. Et dernièrement, la dispersion d'épidémies comme la malaria. Donc ces maux sont déjà ressentis, et de manière de plus en plus importante, par les pauvres du monde où qu'ils habitent, et tout particulièrement dans les pays les plus pauvres. C'est pour ça que le changement climatique peut être considéré comme un problème de justice globale. Donc, en d'autres termes, l'injustice globale du changement climatique réside avant tout dans la double inégalité qui le renferme, l'inégalité dans la responsabilité et l'inégalité dans la vulnérabilité. Alors, pour conclure brièvement, alors, ma présentation était très théorique, mais dans le champ maintenant de recherche de la justice climatique, de plus en plus de philosophes se posent des questions beaucoup plus pratiques. Donc c'est plus la question de la justification de nos devoirs envers les victimes présentes et futures du changement climatique, mais plutôt la question quel type de solution peut-on apporter à ce problème ? Quel type de solution justifiée tant du point de vue éthique que du point de vue de la justice ? Là, trois questions dominantes sont en train d'émerger dans ce champ de recherche. La première question, c'est comment mettre en œuvre des politiques climatiques qui vont réduire de manière efficace et juste les émissions globales de gaz à effet de serre. Là, les philosophes se sont principalement penchés sur les solutions qu'il ne fallait pas adopter, avant tout la géo-ingénierie, qui a de plus en plus de succès dans les cercles scientifiques et qui consiste en fait en la manipulation délibérée du climat par l'homme. Les conséquences néfastes et difficiles à anticiper de ce genre de solution ont poussé les philosophes à écrire contre ce type de solution et à en proposer d'autres. Le deuxième type de solution pratique sur lesquelles les philosophes ont commencé à se pencher ne sont plus les réductions des gaz à effet de serre, mais plutôt l'adaptation aux conséquences du changement climatique qui sont déjà observables aujourd'hui. Étant donné que, quelles que soient les réductions de gaz à effet de serre qu'on va mettre en œuvre, certaines conséquences du changement climatique sont inévitables, et de ce point de vue, il faut se demander comment aider les populations locales à pouvoir s'adapter à ces conséquences. Et troisièmement, dernière question pratique, c'est celle non plus de la réduction ou de l'adaptation, mais de la compensation. Lorsque la réduction est insuffisante et lorsque l'adaptation est impossible, comme c'est parfois le cas, la question c'est, peut-on compenser les populations, par exemple les populations dans les Maldives, qui seront forcées toujours plus au fur et à mesure que le temps passe à migrer dans d'autres régions, comment peut-on les compenser de manière financière, par des droits de migration? Est-ce que la compensation peut se faire de manière totale? C'est ce genre de questions maintenant qui commencent à émerger dans ce champ de recherche, et c'est par elle que je conclue et que je redonne la parole à Paul-Thier.
Merci Simone, merci Michel. Donc je vais ouvrir par une rapide question assez simple. Au fond, ma première question s'adresse à Madame Tsoubouchen. Vous avez évoqué différentes solutions qui ont été discutées en soulevant les différentes objections à ces solutions. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans ces réflexions, on ne remonte jamais aux causes, aux mécanismes causaux producteurs de la pauvreté. Il me semble qu'il y a notamment dans les règles du commerce international, à travers une institution comme l'OMC, le FMI et quelques autres, quelque chose comme une inégalité de pouvoir, de puissance entre les pays, disons, pour simplifier, du Nord et ceux du Sud, et qui est un des vecteurs de cette perpétuation, voire dans certains cas, cette aggravation de la pauvreté. Est-ce qu'une solution qui pose juste la question en termes de remède de justice et qui n'interroge pas et qui ne remet pas en cause ces mécanismes-là, est-ce qu'une telle solution a la moindre chance de produire un quelconque effet durable? En d'autres termes, il me semble qu'il y a, en reformulant la chose brièvement, il y a un mécanisme causal de la distribution de la richesse économique à l'échelle mondiale qui passe par ces institutions et qui est producteur de cette pauvreté. Et sans agir sur lui, comment espérer, au fond, améliorer les choses de façon sensible? Ma question à Michel, au fond, c'est un petit peu la même, d'une certaine manière, c'est-à-dire, où est-ce que réside quelque chose comme une volonté de justice en matière climatique? Est-ce que pour ça, il ne faut pas des acteurs politiques? Et au fond, on entend des acteurs philosophes qui réfléchissent sur des modèles idéaux, mais on n'a pas l'impression que les acteurs politiques sont véritablement, sauf à la marge, rejoints, touchés, emportés par ces mouvements de réflexion
ni ne sont prêts à les porter politiquement auprès de leurs représentés, de ceux qu'ils représentent, et qu'il y a plutôt une telle puissance parmi les représentés des intérêts de type qu'on appelle souvent lobby, qui pèse sur les décisions des acteurs politiques et pèse dans l'autre sens. Donc la question beaucoup plus, au fond, fondamentale, c'est que en abordant ces questions sous l'angle de la justice, on aborde certes des contributions qui sont intéressantes, mais en même temps, il me semble qu'on ne touche pas au véritable problème qui est celui de la formation de la volonté politique et la constellation politique aujourd'hui ne semble pas du tout favorable à ce que ces questions soient véritablement, au fond, prises au sérieux, prises en main et avec détermination. Alors, je propose que Simone commence par répondre, puis Michel, et après ces deux réponses, eh bien, ce sera à vous de venir à nourrir le débat. Voilà.
Merci de ces questions. On discute bien sûr des causes de la pauvreté mondiale. Ça fait partie des débats autour de la justice globale, donc de la justice sociale. Je me suis limitée à quelques remarques à ce sujet seulement. Mais j'aimerais souligner que, et je reviens ensuite à ces causes, que les problèmes de migration sont en quelque sorte des problèmes de second ordre, puisque le problème de base, c'est les inégalités entre riches et pauvres au niveau mondial. Et en raison de ces inégalités, un grand nombre de personnes cherchent à quitter les pays pauvres et à s'immigrer aux pays riches. Donc le problème de la migration est pas au total, puisqu'il y a des migrants pour différentes raisons, mais en partie causé par ces inégalités. C'est pourquoi je pense qu'il est très difficile de traiter de ces problèmes de migration. Comme je l'ai dit, il faut agir ici et maintenant, puisque les gens qui essaient d'atteindre les pays européens meurent chaque année et en grand nombre, etc. Et il n'est pas facile de dire de comment on peut remédier au problème de la pauvreté mondiale. Ça prendra beaucoup de temps, en tout cas. Maintenant, pour revenir aux causes, là également, il y a différentes positions qui sont défendues dans ces débats. Et une de ces positions, celle de Thomas Pogge, pour ceux qui connaissent un peu les noms, est celle de dire que les institutions au niveau mondial, les institutions globales, tu en as mentionné quelques-unes, sont causalement responsables pour la reproduction du problème de la pauvreté. Moi, je pense, et là, il faudrait une analyse plus détaillée, que cette position est problématique. À mon sens, je favorise plutôt l'autre position qui dit que, oui, les institutions au niveau mondial ont leur part de responsabilité, mais il ne faut tout de même pas négliger les facteurs locaux. Ça peut être des régimes dictatoriaux au tiers-monde, dans les pays développés, pardon. Ça peut être des facteurs culturels, etc., etc. Donc, mais il y a également une part de responsabilité dans les pays en développement. Donc, moi, je suis d'accord qu'il faut en parler pour vraiment trouver des solutions au problème de la pauvreté mondiale, mais ce n'est pas exactement la même chose que chercher des solutions au problème de la migration, comme je l'ai déjà.
Bon, c'était un petit peu un raccourci, puisque au fond, vous laissiez entendre que le moteur principal des migrations, c'était la pauvreté. Par conséquent, si on arrive à régler le problème de la pauvreté, les problèmes de migration disparaîtront d'eux-mêmes. C'était un petit peu l'hypothèse sur laquelle vous êtes parti. Et c'est pourquoi je me suis permis ce raccourci. Je suis parfaitement conscient que dans ma question, j'ai fait un raccourci. Mais c'était bien à partir de ce lien que vous avez quand même établi que je me suis permis ce raccourci. Ok. Vous voulez ajouter quelque chose là ? Ok, Michel.
Merci. Ouais, c'est la question très importante de l'impact des théories philosophiques sur le réel. On discutait déjà tout à l'heure au niveau de l'articulation entre une théorie idéale et les circonstances non idéales de ce monde. Déjà, première remarque en réponse, les acteurs politiques eux-mêmes utilisent les termes très denses du point de vue éthique. Par exemple, si on regarde le texte juridico-politique le plus important sur le changement climatique, qui est la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, à chaque page revient des termes comme l'équité, la responsabilité, la capacité. Et tout ça, ce sont des termes polysémiques qui ont différents sens et qui sont des termes philosophiques à interpréter. Donc déjà, la manière dont le débat est posé par les politiciens, c'est déjà là que le problème philosophique commence dès le début. C'est pas que les philosophes qui voient qu'il y a un problème de justice ou d'injustice, c'est les politiciens eux-mêmes qui parlent de justice ou d'injustice. Et ce que la philosophie peut faire comme contribution, c'est de clarifier les débats, étant donné que la justice est un concept qui est très, très complexe. Il faut analyser ces différentes formes, justice distributive, justice attributive, justice participative, montrer ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Et de ce point de vue-là, les philosophes ont un boulot à faire que les politiciens leur ont presque demandé, du fait qu'ils ont signé des traités qui utilisent ces termes éminemment philosophiques. Donc ils parlent également d'intérêt, mais du moment où ils parlent d'équité, c'est une sorte quand même d'appel à un dialogue entre les politiciens et les philosophes. Deuxième remarque, le dialogue ne se fait que très rarement entre politiciens et philosophes. Ça, c'est vrai. On va plutôt utiliser en tant que philosophe des sortes d'intermédiaires pour s'exprimer aux politiciens. Là, les deux intermédiaires qui sont de plus en plus importants aujourd'hui dans la justice climatique sont les économistes. Pendant très longtemps, les économistes du changement climatique étaient très minimalistes, ils disaient qu'il ne fallait pas faire grand-chose. Maintenant, avec les avancées de la science, ils commencent à réaliser que c'est un problème important. Et de plus en plus de philosophes travaillent avec des économistes, écrivent des articles. Et cette collaboration permet une influence indirecte sur les politiciens, étant donné que les politiciens écoutent très souvent les économistes, étant donné qu'ils font ces analyses coûts-bénéfices qui sont très précieuses pour les politiciens qui sont toujours soumis à des contraintes budgétaires. La deuxième manière que les philosophes utilisent maintenant pour essayer de faire entrer dans le réel leur conception éthique ou leur conception morale du monde est via la science, étant donné que le GIEC, dans son prochain rapport, va consacrer un chapitre entier aux questions éthiques du changement climatique. Le GIEC est le texte le plus lu par les politiciens sur les questions du changement climatique. Donc grâce à ce chapitre entier sur les questions éthiques, on peut commencer également à avoir une sorte de dialogue qui se met en place entre les éthiciens et les politiciens. Mais ça reste quand même, c'est vrai, quelque chose de très complexe.
Alors, d'abord, Béat. Christophe,
si ça marche, je vais donner plus loin après.
Alors, tu sais comment l'enclencher ? Je crois qu'il est éteint.
C'est marqué
ici. Il y a un bouton. Ah.
Oui, je crois que c'est bon. Bon. Alors, vous avez montré que la philosophie peut réfléchir sur des problèmes d'actualité extrêmement importants et même extrêmement urgents. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, ma question est un peu la suivante. Donc, vous avez montré des arguments, des contre-arguments, des arguments contre et contre-arguments, etc. Je vois au moins deux métiers qui devraient également être capables de réfléchir en ces termes. Le premier métier, celui de journaliste. On a un journaliste dans la salle, mais je ne sais pas.
Il est parti.
Il est parti, voilà. Il semble que les journalistes, je constate que le plus souvent ils ne le font pas, mais en principe on devrait attendre un journalisme de qualité qui soit capable justement de faire ce genre d'argumentation pour et contre, d'évaluer différentes réponses, etc. Et puis au fond, on peut aussi attendre des politiciens qui soient capables d'évaluer plusieurs scénarios, d'évaluer des arguments, des contre-arguments. Alors ma question est, en quoi est-ce que la philosophie dispose d'outils spécifiques que ces deux populations n'ont pas, et donc en quoi aurait-il besoin de la philosophie pour faire ce type de raisonnement ?
Je sais pas.
Mais commencez à répondre. Hein. Je sais pas si Michel
Ou Simone. Moi, je dis juste réellement au niveau du politique, le temps à disposition. Le politicien a tellement de préoccupations concrètes que ce genre de questionnement abstrait sur les différents sens de la justice, il n'a tout simplement pas le temps de le faire. Et c'est pas une critique, c'est dans le métier de politicien même. Disons une contrainte de temps que les philosophes n'ont pas forcément, étant donné qu'ils ont tous temps pour la recherche, pour la publication de livres, pour la publication d'articles, pour faire des colloques universitaires. Donc c'est surtout une question de temps. Pour le journaliste, je pense que c'est plus une contrainte de place dans la manière dont il s'exprime. Il peut le faire, bien sûr, sous forme de livres, etc., mais l'article de journal est... très bon point de départ pour la réflexion. En effet, le journaliste peut poser d'excellentes questions éthiques, mais ça reste toujours que des points de départ, étant donné qu'il n'a pas assez de place pour approfondir ça. Donc,
Simone ?
Oui, en réponse, je dirais que l'apport de la philosophie est avant tout d'abord d'identifier les problèmes pertinents. Et par problème pertinent, j'entends ici les problèmes normatifs. Donc il y a aussi des problèmes qui ont à faire avec des faits, ces choses de faits, des chiffres, etc. Alors, il faut bien sûr se référer à ceci, mais il y a des questions normatives, éthiques, politiques qu'il faut identifier. Et puis on en a parlé dans la discussion avec les enfants, il faut aussi savoir distinguer, donc analyser des problèmes très complexes, les diviser en sous-questions, etc., etc. Et puis la deuxième chose que j'ajouterais, et là peut-être tous les philosophes ne seraient pas d'accord avec moi, je crois qu'il est aussi du ressort des philosophes de connaître les ressources intellectuelles qu'on peut utiliser pour traiter de tels problèmes. Et là, je pense bien évidemment également à la connaissance des grands classiques dont il était question au début de l'après-midi. Donc, moi, je pense que l'histoire de la philosophie a beaucoup de ressources intellectuelles à mettre à notre disposition, mais il faut également les connaître et savoir les utiliser pour les problèmes qui nous intéressent aujourd'hui.
J'aimerais apporter juste un petit grain de sel, où je mets ma casquette de militante Amnesty, verser, disons, à longueur d'année sur les stands dans la rue, à argumenter sur le sujet de la migration, sujet extrêmement sensible en Suisse. Et l'argument qui peut-être vous est utile, que j'ai fini par développer à force de me frotter aux gens qui sont contre, c'est en fait leur expliquer que c'est nous qui produisons, nous, pas seulement à travers nos politiques ou avec, à travers un FMI ou une Banque mondiale qui sont des entités qui existent parce que nous les laissons exister, mais c'est tout d'abord nous comme individus, comme citoyens, par nos actes d'achat. Chaque fois que nous allons dans un supermarché, nous achetons des produits d'une multinationale qui fait assassiner des syndicalistes en Colombie, nous soutenons un modèle économique qui crée de la pauvreté là-bas, qui ensuite, ben, nous devons la payer quelque part. Nous voulons des produits bon marché. En échange, nous avons le devoir d'accueillir ces malheureux, ces pauvres que nous produisons nous-mêmes. Et comme la société néolibérale nous veut surtout consommateurs, j'aime bien la position du consommateur. Je choisis ce que j'achète dans mes actes de tous les jours. Et ça vient chez moi dans une certaine mesure du sentiment de responsabilité vis-à-vis d'autrui. Je ne suis pas plus que juste l'égal de toute autre personne dans le monde. Et il me semble que ces dernières années, la notion de responsabilité commence à disparaître, ou éventuellement, j'ai le sentiment qu'elle se chiffre en monnaie. Dédommagement, comme Michel Bourbon parlait de dédommagement. Or, il y a quelque chose au-delà de l'argent, une responsabilité morale en tant que citoyen que nous sommes. Je ne sais pas si vous pouvez développer un tout petit peu, si vous pouvez nous donner un peu des tuyaux, si vous pouvez m'aider dans ma démarche future, de future militante encore par la suite. Je suis preneuse. Merci.
Merci beaucoup pour ce commentaire, ces observations. vous avez dit quelque chose que je trouve très intéressant. Donc, vous constatez qu'il est possible de faire en sorte que les gens commencent à changer leur comportement individuel avant tout en tant que consommateurs, quand on arrive à leur montrer qu'ils sont causalement responsables pour, certains phénomènes qui ont à faire avec ce qu'on appelle globalement la pauvreté. Et je pense qu'il est en effet une très bonne chose de viser un changement des comportements individuels, mais je pense également, et là je donnerais plutôt raison à Hugues qui a posé la question des causes de la pauvreté, qu'il faut également une action au niveau politique. Et donc on fait appel non pas aux consommateurs, mais plutôt aux citoyens, à la citoyenne, qui dans une démocratie ont quand même la possibilité de prendre de l'influence sur la politique de leur gouvernement. Vous n'êtes pas sûr, mais il y a là également une responsabilité citoyenne qu'il faut prendre au sérieux. Mais là, si je pense à la situation en Suisse, notamment face à la migration, je trouve que les débats sont bloqués. Je ne vois pas vraiment de comment on pourrait commencer à changer les choses, puisqu'on connaît les réactions de certains partis, etc. On n'ose même plus d'aborder les questions en lien avec la migration pour ne pas créer une opportunité à ceux qui se prononcent toujours pour la fermeture des frontières, etc. etc. Donc, qui ne voient pas ces enjeux moraux avec lesquels on a affaire. Donc là, si quelqu'un d'autre a de bonnes idées, c'est très bienvenu. Donc moi, je pense que là, on a vraiment un problème, et la Suisse n'est pas le seul pays qui a des problèmes.
Michel, tu voulais ajouter quelque
chose? Oui, juste brièvement aussi, si on veut changer les comportements individuels, par là où on doit passer, c'est avant tout les institutions, politiques, tant au niveau d'un pays qu'au niveau des problèmes du point de vue global. Le problème que vous mentionnez, lorsqu'on consomme des produits qui viennent de pays qui ont été produits dans des conditions injustes, comment mettre fin à ça? On peut le faire en essayant de sensibiliser les gens. Bon, on ne va jamais vraiment réussir à attaquer les causes du problème. La cause vraiment fondamentale, c'est que les institutions, que ce soit par exemple l'Organisation mondiale du commerce, les institutions globales, continuent à tolérer ce genre de système de production. Si on veut vraiment mettre fin à cela, il faut vraiment s'attaquer à ces institutions-là et les réformer de telle manière qu'il ne soit plus possible d'exploiter autant les peuples à l'étranger pour que nous, on puisse avoir un mode de vie tel qu'il est aujourd'hui beaucoup plus confortable. Donc, en effet, c'est au niveau politique qu'il faut s'attaquer, même si c'est bien en tant que consommateur de prendre conscience de cela et essayer de changer les comportements. La source vraiment des choses sera au niveau politique, au niveau institutionnel.
Christophe.
Il y a des arguments il y a des arguments vraiment purement économiques à propos de la migration qui peuvent être avancés dans la discussion. Je me rappelle qu'il y a 20 ans, il y avait une évaluation des besoins futurs de capitalisation de l'assurance vieillesse et on prévoyait pour 2012 un déficit de 16 milliards. En fait, on s'est trouvé devant un bénéfice de 16 milliards. Et ça, on avait simplement oublié de compter les immigrés. Donc c'est quelque chose de très important. La machine suisse n'a pas fait assez d'enfants. Nous n'avons pas fait assez d'enfants. Les immigrés sont les enfants que nous n'avons pas eus. Et ce discours-là est un discours qui est très frappant par rapport en particulier à nos collègues alémaniques qui sont des Malthusiens enragés pour des raisons métaphysiques et mystiques. C'est la nature. Il ne faut pas que le crime spécifique d'engendrer des êtres humains vienne troubler les forêts. Et il se trouve que la contradiction qui a été amenée par cette attitude malthusienne est le fait que toute l'Europe maintenant est vieillissante et ne vivra que par les immigrés. On peut même aller beaucoup plus loin. Factuellement, donc je ne passe absolument pas sur le plan des valeurs, il est évident, moi je suis cette année chassé de mon appartement, je serai dans 4 ans chassé de la Suisse. Donc il faut se dire que les gens qui ont travaillé en Suisse n'y mourront pas, et les gens qui travailleront en Suisse n'y sont pas amenés. Alors, cette vision est une vision terrifiante, c'est la vision de la mondialisation. Seulement ceux qui n'ont pas cette vision-là sont des nains de jardin. Ils ne sont simplement pas à la hauteur de la question. Je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas d'éminente discussion déontologique à avoir, mais on peut se référer à un mouvement des fêtes, et dans le mouvement des fêtes, l'opposition à la migration, même affective, et surtout affective, est totalement contradictoire avec l'intérêt commun. Donc on se trouve devant un discours très dur, mais que la droite n'a pas osé porter, c'est que l'immigration nous est indispensable, et que c'est l'immigration qui assurera, en fait, l'avenir du modèle social suisse.
Merci Christophe. Passez le micro jusqu'à Gabriel pendant que, je suppose, c'est une question pour vous.
Merci pour ces observations. Je suis tout à fait d'accord que des arguments économiques en faveur de la migration ou de l'ouverture de frontières pour les migrants économiques des pays pauvres peuvent être très efficaces quand il s'agit de convaincre les gens. Mais j'ai néanmoins des hésitations à cet égard. Ça me rappelle beaucoup le mouvement de l'abolitionnisme qui était en grande partie, je dirais, motivé par des raisons humanitaires, mais qui a ensuite commencé à utiliser des arguments économiques pour convaincre ceux qui ont gagné beaucoup d'argent avec l'esclavage et la traite. Et ces arguments économiques ont également leur danger. Le mouvement de l'abolitionnisme le montre très bien, puisque à partir de là, on a commencé à développer la vision d'une nouvelle sorte de colonisation, d'une nouvelle forme de colonisation, donc qui s'est basée sur l'idée qu'il faut libérer les esclaves et les engager en tant que travailleurs. Donc les arguments économiques, en tout cas si on si on ne les met plus en rapport avec les arguments humanitaires, je dirais, peuvent être problématiques. Donc si vous combinez les deux choses, d'accord, ça aide à convaincre les gens, mais sinon je reste un peu critique.
Gabriel.
Oui, Michel, je crois d'abord on peut dire que, comparativement aux journalistes par exemple, les philosophes avaient le temps.
C'est plus pour le politicien que pour le journaliste. C'est plus pour le métier de politique.
Ouais. En fait,
le temps de faire.
Je suis vraiment ravi pour toi. Ça fait très longtemps que je n'avais pas entendu ça. Par rapport à mon expérience, un philosophe académique, enfin, je veux dire, est soumis à des pressions de productivité, de publish or perish, comme on dit dans le jargon, gigantesque et de plus en plus grande. Mais ma question, c'est pas tout à fait ça. C'est que souvent, ce qui se passe avec les philosophes, mais pas seulement les philosophes, c'est les anthropologues, il y a une interview de Latour qui vient de publier dans le monde là-dessus, enfin, qui des gens qui parlent de l'anthropocène, du climat, des technologies, etc. C'est qu'ils interviennent énormément. Ils interviennent où ? Ils interviennent dans les médias, dans les débats publics. Ils organisent même des débats publics. Ils sont sollicités dans toutes sortes d'instances décisionnelles, y compris parfois. Capitaliste. Et du coup, ma question, en fait, c'est, parce qu'on parle d'une théorie que vous appelez normative, hein, de la justice, et puis ensuite, on parle des actions, du stand, au marché, etc. Et puis oui, il faudrait. Et moi, il me manque quelque chose là au milieu, justement. Et du coup, ma question, c'est comment est-ce que vous concevez votre rôle en tant que philosophe dans cette manière, dans la manière dont les arguments que vous développez peuvent percoler jusqu'à une action concrète, individuelle, locale. Est-ce que c'est votre rôle? Et si oui, est-ce que ça change quelque chose au niveau du rythme et de la manière de travailler? Ce n'est pas seulement en termes de pression et d'urgence, du genre « Ah bah, faut vite que j'aille à la radio et puis après je vais dans un débat public, etc. » Mais aussi, comment est-ce que je parle? De quoi est-ce que je parle? Est-ce que mes arguments se configurent d'autre manière? Est-ce que mon langage doit se modifier? Est-ce que tout est...
Oui, c'est vraiment une question de méthode, comment procéder quand on est philosophe et qu'on s'intéresse à ce genre de problèmes très concrets. Il y a des manières très idéales d'aborder la justice, des manières beaucoup plus non idéales. Donc moi, je suis plutôt partisan d'une méthode non idéale. Donc j'intègre les contraintes du réel dans ma théorie, dans le sens où je n'essaye pas de développer une théorie idéale de la justice climatique globale, mais une théorie applicable. Donc c'est philosophie politique appliquée, éthique appliquée. Et le but, justement, c'est de faire des concessions aux intérêts économiques, aux intérêts qui régulent les relations politiques de manière constante, pour essayer d'arriver à faire des prescriptions politiques réalisables. Donc quand on se demande, c'était ma conclusion sur ces trois questions pratiques, qu'est-ce qu'un philosophe peut dire qui pourrait être pourrait avoir un impact sur le réel, que ce soit les politiciens qui l'écoutent, que ce soit les économistes, ce ne sera pas le philosophe qui va dire comment réaliser cette politique, il va dire étant donné ce que la justice est, étant donné les exigences de la justice, même si on les prend de manière minimale, comment devrait se configurer cette solution. Donc moi, ce ne sera pas au niveau de, comme un politicien le ferait, de légiférer sur la question en entrant dans les détails spécifiques de la loi, mais tout simplement en prenant en compte certaines circonstances du réel, notamment le problème de la motivation, comment motiver les acteurs à agir en prenant en compte leurs intérêts et en essayant de montrer les fois où les devoirs de justice globale entrent en congruence avec les intérêts que nous avons à réduire les gaz à effet de serre. Donc là, c'est moins sur la notion de responsabilité et capacité qui sont des notions philosophiques très importantes, mais qui sont, disons, pas toujours intéressantes pour les politiciens, mais plus sur la notion d'intérêt. Et si on commence à décliner cette notion d'intérêt et à montrer tout ce qui se trouve dedans, on arrive à montrer qu'il existe des intérêts très nombreux à combattre le changement climatique. Donc pour moi, ce serait la manière d'essayer de rapprocher la théorie du réel.
Il nous reste le temps d'une dernière question. Je suis navré pour les éventuels autres désirs qui se sont exprimés. La dernière question est pour Guillaume Chapuis. Après, l'heure nous forcera de nous arrêter pour cette séance.
Oui, j'aurais une question. En fait, je n'y connais pas du tout, ni en philosophie politique, ni en philosophie du droit, etc. Donc, je suis un complet novice dans le domaine. Mais il y a quand même une réflexion qui me vient. Vous nous parlez de justice globale, vous nous parlez de justice climatique, etc. Donc on a l'impression d'avoir un modèle très normatif ou si on veut très vertical comme ça, où il y a le droit, il y a les normes, il y a ce qui est juste, etc. Et ça s'applique ensuite à la réalité, ça s'applique ensuite à ceux qui doivent l'appliquer, donc les États, en l'occurrence les États de la communauté internationale. Mais finalement, comme un professeur de droit me l'avait fait remarquer une fois, tout le droit international, c'est un droit horizontal, basé sur un contrat où quelque part un État s'engage à respecter certaines règles d'accord, mais il signe une convention, il peut aussi la dénoncer, il s'engage jusqu'à un certain point, il peut aussi se retirer. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas un problème à la base de ce domaine, puisqu'on est de toute façon dans quelque chose qui est quelque part contingent, vu que les États disent « Ok, c'est bon, j'accepte ce deal, si on veut, mais seulement à ces conditions-là, seulement à la condition qu'on mette ce mot-là, etc. » Et à la condition j'extrapole un peu, hein, mais qu'on laisse l'application de cette convention qu'on a bien voulu signer relativement floue. Voilà. Pour moi, c'est un peu le problème que je vois dans ces questions de justice globale, mais voilà, je me réjouis d'avoir votre éclairage.
Tout le monde.
Merci de votre question. Donc, vous faites en quelque sorte allusion à l'élément que j'ai appelé démocratie. Si on pense aux relations internationales, il est vrai qu'il faudrait avant tout pas penser aux traités qui sont conclus par les États. Et il est clair que dans une situation réelle, il y aura toujours des négociations, il y a des intérêts qui sont en jeu, et puis on fait des concessions si on obtient ceci et cela, etc. Mais je crois qu'il n'est pas trop idéaliste de penser, d'imaginer que les politiciens qui négocient ces traités se laissent également, pas seulement, mais également guider par des réflexions d'ordre normatif. Et là, je pense avant tout aux choses fondamentale, tout ce qu'il y a à faire, par exemple, avec les droits humains fondamentaux, etc. Il y a un grand consensus international aujourd'hui sur ces questions Donc, il n'est pas facile pour un négociateur, pour un politicien, de simplement se libérer de ces standards universels, etc. Donc, moi, je pense que ce n'est pas trop idéaliste de quand même s'appuyer sur l'idée que des politiciens se laissent également orienter par les réflexions normatives.
Bon, un dernier mot de Michel,
ouais,
et après on lève la séance. Mais très bref.
Hein. Oui, très bref. L'importance des normes en relations internationales ou même dans les relations domestiques des pays. L'important est que les normes, les lois décidées semblent justes. Il faut qu'au moins elles s'enrobent, même si ce n'est que dans l'apparence, il faut qu'elles aient une légitimité morale. Et ça, les politiciens en ont conscience. Donc des fois, ils vont instrumentaliser certains concepts éthiques, comme quand George Bush dit « Au nom de l'équité, je ne signerai pas à Kyoto ». C'est en fait les intérêts économiques qui parlent. Donc là, on est clairement dans un cas où la norme ne joue aucun rôle. Et ça, c'est le réalisme politique. Mais dans beaucoup d'autres cas, typiquement dans les conflits internationaux, quand on est en situation de guerre, le droit international de la guerre est tellement important et il est codifié à partir de conceptions éthiques très fortes que les politiciens ne peuvent pas passer sur certaines contraintes en termes de justification. Donc quand un pays doit intervenir pour faire la guerre à l'étranger, il faut que cela semble acceptable du point de vue de la population, étant donné qu'on est dans des démocraties et que le peuple doit accepter. Donc il faut quand même prendre en compte cette contrainte de normativité, même si elle n'est pas aussi importante que la contrainte des intérêts.
Voilà, ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup à Simone Tourbouren et à Michel Bourban pour être venus nous parler autour de la justice globale. Merci à vous pour votre participation. Et puis, je vous propose donc que nous levions cette séance sans oublier de remercier chaleureusement nos contributeurs.